13h,
la parole aux aidants sur Vivre FM.
Christophe Bougnot,
Michel Guimel-Chambonnet.
Bonjour, c'est la parole aux aidants. Bienvenue, comme chaque vendredi à midi, on se retrouve pour cette émission consacrée aux aidants familiaux. Au quotidien, vous aidez votre parent, votre enfant, votre conjoint, vous êtes donc un aidant familial. Vous pouvez témoigner dans l'émission, poser vos questions. Je suis avec la psychologue Michel Guimel-Chambonnet, avec vous pour vous écouter et vous conseiller. Geneviève aide son mari Michel, hémiplégique et aphasique depuis un AVC. Elle aide pour tous les gestes de la vie quotidienne, les repas, les déplacements, les papiers administratifs. Michel a de très grandes difficultés à parler et Geneviève a décidé de s'engager dans une association d'aphasiques. Elle a appris les techniques pour améliorer la communication dans son couple. Geneviève témoigne aujourd'hui dans l'émission. En fin d'émission, Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions internet et Facebook. La parole aux aidants, vous aidez, on vous aide.
La parole aux aidants avec Malakoff Médéric.
Bonjour Michel.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Soyez les bienvenus, on est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. La parole aux aidants, c'est le rendez-vous des proches de personnes dépendantes. Vous aidez au quotidien votre enfant, votre conjoint, votre parent. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à témoigner, à prendre la parole sur l'antenne de Vivre FM. Le numéro de téléphone à votre disposition, c'est le 01 56 88 40 20. Racontez votre histoire et aussi être conseillé, orienté par Michel Guimel-Chambonnet, la psychologue qui m'accompagne chaque vendredi. Dans quelques instants, nous vous présenterons nos invités. En fin d'émission, Michel répondra aux questions internet et Facebook répondra à vos questions. D'abord, l'info de la semaine, Michel. Au moment de l'université d'été, Alzheimer et maladies neurodégénératives, les résultats d'une étude d'OpinionWay sont parus sur les motivations des proches de personnes qui dépendantes. Et ce chiffre, 83% des aidants vivent en province. Justement, c'est l'occasion. Alors, beaucoup de nos auditeurs vivent à Paris, en Île-de-France, beaucoup d'autres aussi plus loin. Est-ce que ça change quelque chose pour des aidants d'habiter, on va dire plus généralement, loin d'une grande ville ?
Ah oui, ça change parce que la qualité des soins n'est pas toujours la même, parce que les grands centres hospitaliers sont dans des villes, parce qu'il y a, à cause des distances d'un point à l'autre, une prise en charge d'un point de vue matériel qui n'est pas toujours aussi bonne qu'elle devrait l'être, parce que tous les personnels médicaux et paramédicaux sont obligés de faire de grandes distances pour se rendre au domicile des personnes, et que ça ralentit évidemment toutes les actions que ces personnes peuvent avoir.
L'isolement des aidants familiaux, est-ce que c'est forcément l'éloignement géographique ?
Non, non, non. L'isolement de l'aidant familial n'est pas du tout lié aux distances, par contre, dans la mesure où la présence des autres va prendre une autre forme. Au lieu de passer tous les jours ou tous les deux jours, quelqu'un viendra remplacer l'aidant éventuellement pendant une petite semaine, par exemple. Donc effectivement, le temps va se découper autrement à cause des distances, mais je ne pense pas qu'on puisse parler d'isolement lié au fait de vivre en zone rurale.
Ça peut être dû à d'autres choses. On a beaucoup de témoignages, oui. Beaucoup de questions aussi de personnes qui nous écoutent, d'aidants familiaux, qui disent vraiment je me sens très seul, très isolé, je ne sais plus quoi faire, je suis dépassé, débordé.
Oui.
C'est quoi le réflexe à ce moment-là ?
Arrêtez de vous enfermer. Nous avons reçu très récemment un homme jeune qui a dit qu'il refusait les sorties, les invitations de ses amis, parce qu'il ne pouvait pas laisser ses parents seuls. Mais en réalité, il pourrait exceptionnellement demander à un auxiliaire de vie ou à un ami, ou enfin, je ne peux pas dire à un babysitter, parce que ce serait un peu péjoratif, mais en tout cas à quelqu'un, de venir passer la soirée, même en le rémunérant bien sûr, de venir passer la soirée avec ses parents, une fois par quinzaine, pour que lui puisse sortir. Donc oui, une grande partie de l'isolement de l'aidant n'est dû qu'à lui.
Si vous ressentez de tels sentiments et que vous souhaitez des solutions concrètes, n'hésitez pas à témoigner dans l'émission et à échanger avec Michel. 01 56 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. 01 56 88 40 20. Deux invités aujourd'hui dans la parole aux aidants. Jean-Jacques a 61 ans, il vit à Sceaux. Il est dépendant depuis un accident de moto et le long coma qui a suivi. Et il est accompagné de Martine, son auxiliaire de vie. Tous les deux viennent nous parler du lien qu'ils ont créé ensemble depuis un an et demi. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue, vous avez participé à En Duo, une émission de télévision sur laquelle nous faisons un focus, un programme court plus exactement, qui présente des binômes personnes handicapées auxiliaires de vie. Une émission diffusée sur France 3 du 2 au 27 novembre à 11h50. En Duo est impulsée, une opération impulsée par Capandéo qui labellise les services à la personne handicapée. Comment ça s'est passé cette expérience d'être filmé dans ce quotidien qui est le vôtre, Jean-Jacques ? C'est spécial, c'est particulier.
Ouais, ça s'est à la fois bien passé, mais c'était aussi quelque chose, pour moi, de très éprouvant. Parce que, il faut peut-être remonter l'histoire de mon accident. Il y a bientôt 3 ans, j'ai été victime d'un accident de moto, un accident du travail, je roulais péniblement au milieu, et la voiture qui était à ma droite a brutalement tourné à gauche. Je l'ai percuté et j'ai fait un bol plané par-dessus. J'ai été au départ ramassé par les pompiers qui ont dit il est certainement mort. Donc j'ai fait 2 mois et demi coma et j'ai été opéré une trentaine de fois.
Beaucoup de rééducation depuis. Ça a fait remonter tous ces souvenirs.
Ça. Ouais. C'est assez difficile. J'ai la chance d'avoir des enfants. J'ai 4 enfants qui sont très présents et qui m'aident bien. C'est vrai que ne pouvant pas, pendant cette période de coma, prendre de décisions quant à mon hospitalisation, mes opérations, mon suivi, c'est mon fils, l'aîné de mes enfants, qui a maintenant 35 ans, qui est pédiatre. Donc je suis suivi par un pédiatre, bien que j'ai 61 ans, donc j'ai plutôt l'âge d'être en gériatrie. Et donc je suis suivi.
Encore, c'est un peu jeune.
Je suis suivi par ce pédiatre qui prend toutes les décisions, décisions d'opération, décisions financières.
Alors on voit peut-être votre famille dans ce film et du coup on comprend aussi à quel point ils sont importants autour de vous et puis on voit aussi Martine qui est votre auxiliaire de vie.
C'est vrai
Martine,
que...
un petit mot pour Martine sur le fait justement de participer à cette série, d'être filmé dans votre métier, dans votre relation avec Jean-Jacques puisque je crois que vous êtes très très complice. Vous vouliez montrer ça aux gens, à ceux qui connaissent peut-être pas bien.
Oui, parce que ça n'a pas été facile d'ailleurs de. D'être en tournage, c'est pas évident tout le temps.
Pour personne,
la première fois, c'est une première fois. Alors une première fois très très riche en émotions, en sentiments, en ressentis. C'est vrai que tout ce qui est ressorti de l'histoire de Monsieur Blade, même si on la connaît, on la vit avec lui, on la vit à travers ses enfants. Il y a beaucoup de, c'est une histoire qui ressort, c'est vrai. Et puis parler de nous en tant qu'aidants, c'est pas toujours facile. C'est facile, c'est concret, mais à exprimer, à vivre, à faire vivre, c'est difficile.
Et là, il y a des situations qui ont été montrées. Quelles situations de la vie quotidienne ?
Alors, nous sommes allés sur un marché, au niveau de, pour les senteurs, pour les odeurs, pour les couleurs, pour plein de choses. Nous sommes allés au château de Sceaux, dans une exposition.
Ce sont des bons moments que vous
des
partagez
moments,
avec Jean-Jacques, parce
moments.
Que vous l'accompagnez,
voilà.
Hein, donc
nous
votre rôle,
ensemble.
Il est là.
Voilà, notre rôle est là, et nous avons, à ce moment-là, nous avons oublié le fait d'être filmés. Donc ça a été encore plus vrai. On a complètement oublié que nous étions filmés. On a oublié l'équipe, ma foi, fort sympathique, mais on a oublié l'équipe, et ça a été authentique.
Et vous êtes contente d'avoir montré ça, d'avoir pu montrer votre métier, et puis les personnes qui ne connaissent pas bien le handicap, il y a beaucoup de clichés, d'idées reçues. Là, on peut bien comprendre ce que c'est que d'avoir un handicap,
oui.
D'avoir des séquelles et puis d'être accompagné.
Voilà, une partie de l'accompagnement, oui, c'est important. C'est important.
Michel Guimet-Chabonnet, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, on ne connaît pas forcément très bien le rôle de l'auxiliaire de vie. Chaque situation est différente en plus.
Bien sûr.
Et là, on montre quand même des situations qui sont importantes, mais aussi sympathiques. C'est-à-dire qu'on partage de bons moments quand on est auxiliaire de vie, même si on est un professionnel.
Tout à fait. Mais je trouve intéressant, effectivement, le fait que les personnes sont chacune dans son rôle. Donc, la personne qui a besoin d'aide et la personne qui apporte l'aide sont chacune dans son rôle, mais en même temps, elles créent des liens entre elles. Et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est que ce sont deux personnes qui discutent ensemble, qui ont des activités en commun, et c'est pas seulement donner la béquille à l'autre, enfin, Je pense que c'est ça qui compte. C'est vraiment deux alter ego.
Alors Jean-Jacques, voilà. Parlez-nous de Martine. Qu'est-ce que vous pensez de Martine? Comment définiriez-vous votre relation à tous les deux? On vous sent complice.
Les sourires que les auditeurs ne voient pas montrent que oui, ils sont complices.
C'est tout à fait. En fait, au début, quand je me suis réveillé de ce coma après mon accident, et puis après avoir été longtemps, trop longtemps à Garches, opéré moult fois, qu'il a fallu retourner chez moi, dans ce nouveau chez moi, en fait, il me faut quelqu'un pour m'aider dans la vie de tous les jours. Il y a des choses vraiment toutes simples qui peuvent paraître toutes simples à nos auditeurs. Par exemple, le matin, c'est je prends une douche tous les matins. Donc, une fois après ma douche, je me rase, pas une rasoir électrique, mais rasoir manuel, mécanique, et sans se couper, de préférence. Et puis après, s'habiller, c'est là que revient la difficulté. Autant je peux choisir les habits, car je ne mets que des habits propres.
Ben oui.
Je change de slip tous les jours, et de chaussettes. Mais alors, mettre ces chaussettes, pour moi, c'était vraiment, au départ, vraiment une galère, une complexité. Autant l'été, ça va, parce qu'on peut rester en sandales, mettre des tongs. Et encore des tongs, c'est un peu dangereux, parce que ça ne tient pas très bien aux pieds.
Oui.
Donc, mettre les chaussettes,
un vrai exemple. Martine est arrivée, elle vous a aidé pour ce genre de complexe, comme un super héros, un peu, on a l'impression. Et voilà. C'est vrai qu'elle vous a aidé sur ces gestes concrets.
Oui. Donc j'ai une auxiliaire de vie comme Martine et quelques-uns de ses collègues, tous les matins, pour me lever, m'habiller. Donc c'est aussi une présence humaine. Car certes, j'ai mon appartement, mais au bout d'un certain temps, d'être seul entre mes quatre murs, j'ai l'impression d'être en prison.
Bien sûr.
Je me dis, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est de rencontrer les gens qui peuvent... sortir, me dire le temps qu'il fait, il pleut, il ne pleut pas, bref. Et Martine, c'était vraiment une fenêtre ouverte sur le monde. C'est de revivre. Après cet horrible accident, c'est de revivre, une renaissance. Et de pouvoir retrouver ma place, une place dans la société. Parce que, certes, maintenant, et hélas, je dirais Jean-Paul Lasse parce que je suis encore jeune, je n'ai que 61 ans, mais je suis maintenant à la retraite parce que je pourrais difficilement reprendre mon travail. Donc c'est de revivre des émotions, du travail.
Ça, c'est un beau message aussi de la part de Jean-Jacques. Jean-Jacques et Martine qui témoignent aujourd'hui dans La Parole aux aidants. On va les retrouver dans quelques instants. Et en fin d'émission, Michel Guimel-Chambonnet répondra à vos questions Internet et Facebook. À tout de suite.
La Parole aux aidants, Christophe Bougnot, Michel Guimel-Chambonnet.
La Parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, comme chaque vendredi. C'est votre émission, vous qui aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint dépendant. N'hésitez pas à témoigner de vos difficultés, 01 56 88 40 20. Vous pouvez aussi poser vos questions sur Internet et Facebook. Michel y répond dans un petit quart d'heure. On est avec Jean-Jacques. Jean-Jacques est dépendant depuis un accident de moto. Il est âgé de 61 ans, vous vivez à Sceaux. Vous êtes accompagné de Martine, votre auxiliaire de vie depuis un an et demi, je crois, tous les deux. Vous vous êtes donc amené à passer du temps chaque jour, puisque Martine vous l'aidez dans certains gestes de la vie quotidienne. Vous l'aidez aussi, et ça c'est important, alors avec les termes employés, on dirait avoir une vie sociale. Dans la vie de tous les jours, en fait, vous l'aidez à voir ses amis, à pouvoir passer des invitations, et ça c'est important.
Oui, je peux dire que le plus important n'est pas dans l'aide physique ou matérielle qu'on peut amener à Monsieur Blade. Je veux dire, ça peut paraître succinct de dire je vais l'aider à mettre ses sockets. C'est important pour Monsieur Blade. Ce n'est pas l'essentiel du travail. L'essentiel du travail, c'est un vrai accompagnement vers la vie, un accompagnement vers l'extérieur. S'ouvrir. Donc s'ouvrir, ça veut dire aller au marché, ça veut dire faire des courses, ça veut dire on fait des courses, on prévoit un menu, on établit un menu, on va cuisiner ensemble. Monsieur Blade ne sait pas, on fait ensemble, c'est pas grave. On s'ouvre vers l'extérieur. C'est le plus gros du travail.
Et ça, c'est parce que c'est Martine ou c'est parce que c'est à la base du métier et tout le monde fait ça?
Non. Je veux dire, à la base, je pense qu'il y a la personnalité Martine, qui n'est pas... on peut dire piquer des mouches, mais bon, on veut dire que la personnalité Martine a bien rencontré M. Bled. Sur ce point-là, je suis arrivée avec peut-être une fenêtre ouverte sur M. Bled, je ne le connaissais pas, et sa fenêtre à lui était ouverte. Donc voilà, nous avons fait cette belle rencontre, et ça s'est bien passé.
Michel Guimet-Chamonet, oui, très important ce que dit Martine. C'est pas le petit plus, c'est le grand plus de
tout
pouvoir partager ce genre
Alors,
de choses.
Il y a quand même deux choses qui sont en parallèle. Il y a un certain nombre de gestes techniques qui sont importants. Effectivement, ça n'a l'air de rien, mais savoir aider quelqu'un à mettre ses chaussettes, ça ne s'improvise pas. Il y a une façon de faire. Donc ça, c'est important pour l'aide à la toilette, pour un certain nombre de choses. Effectivement, il faut avoir appris à le faire. Quelquefois, l'apprentissage se fait sur le tas, mais il faut savoir le faire, premièrement. Deuxièmement, et ça, là, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit, Martine, l'aide technique, c'est une part minuscule de la relation avec la personne qu'on vient accompagner. On vient surtout l'accompagner encore plus que l'aider. Et donc, c'est vrai que je trouve intéressant la remarque que vous avez faite. On conçoit le menu ensemble, on va faire les courses, et on prépare le repas ensemble. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout pour la personne qui a des difficultés ou qui a besoin d'être aidée, mais on fait avec cette personne. Et c'est là où on fait un véritable accompagnement. Et on permet à la personne aidée de revenir dans le monde vivant. C'est ça qui compte, je crois.
Oui.
C'est ce que vous avez expliqué.
Oui, parce que pour M. Blaine, c'est vrai quand il dit qu'il est revenu, il veut revenir dans le monde des vivants. M. Blaine dit aussi « je suis un handicapé capable ». Donc, servons-nous des mots de M. Blaine pour dire « je suis capable, nous sommes capables d'aller de l'avant ».
Jean-Jacques, peut-être que Martine vous a regardé avec ses yeux d'handicapable et d'autres ne l'ont pas fait. Vous pensez que cette maladie, ce handicap, vous aurez isolé s'il n'y avait pas eu Martine, de vos amis, de le simple regard sur vous, sur la maladie, ça aurait freiné certaines personnes.
C'est probable. Parce qu'en fait, quand on se trouve par obligation, dans un premier temps, assis sur un fauteuil roulant, les gens vous regardent, oh le pauvre, oh, mais c'est triste. Alors voilà, c'est de se dire, je suis assis pour l'instant, j'ai une canne, d'accord, mais je vais y arriver, je vais revivre. C'est-à-dire que Martine c'est un peu le miroir de qui je suis, de montrer que la volonté, je l'ai, mais il y a aussi des limites. Il y a des choses que vraiment je ne pouvais pas faire. Et petit à petit, c'est une renaissance, une nouvelle vie qui s'ouvre à moi. Et c'est des gens comme Martine ou ses collègues où c'est la possibilité de repartir, de redémarrer sur une vie comme les autres, quoi. De se tenir debout, de marcher. Et bon, c'est vrai que j'ai besoin d'aide encore pour ne pas tomber, mais... c'est vraiment un regard neuf, un regard nouveau, je me répète, mais une nouvelle naissance. Voilà, c'est vraiment des gens comme elle, comme ses collègues, c'est l'occasion de renaître.
Il y a Martine et il y a ses collègues, nous dit Jean-Jacques, derrière ces services à la personne, c'est une association gestionnaire qui s'occupe de ces services à la personne ou c'est une entreprise ?
Une association.
Comment s'appelle cette association ?
L'association Famille Service.
Et donc vous êtes plusieurs à accompagner une personne, c'est important d'être plusieurs aussi, de se reposer les uns sur les autres, de pouvoir parler lorsqu'il y a une difficulté qui se présente ?
Oui, c'est très important d'échanger, de ne pas rester seul avec ce qu'on pourrait vivre parfois comme un échec, ou les questions qu'on peut se poser, il faut vraiment partager, il ne faut pas se renfermer, pas se mettre parfois en échec tout seul. Pas vivre les choses en échec, et se dire que parfois un échec, on rebondit mieux. On peut mieux rebondir de quelque chose où on n'arrive pas. Et peut-être la collègue va elle-même pouvoir faire autrement
avoir
la solution. On n'est pas multi-compétente partout. On a un savoir-faire, on a un savoir-être, mais... on a nos limites aussi. Des fois, on ne sait pas. Il faut aller trouver la réponse ailleurs. Pourquoi pas dans les collèges, pourquoi pas famille service, pourquoi pas sur Internet, pourquoi pas avec un numéro de téléphone. Mais on a des limites, c'est important de partager.
Et ça se passe où les échanges? À quel moment justement on trouve du temps entre collègues pour, on dirait aujourd'hui dans les entreprises, débriefer? Mais c'est un peu ça.
Eh bien, pour Famille Service, nous avons des cahiers de transmission. On transmet les informations importantes, ce qui peut nous paraître important à nous, mais les informations de base en général. Et puis on peut très bien faire appel au bureau, à Famille Service, pour dire... On ne se connaît pas visuellement, on aimerait bien se connaître pour échanger, mais vraiment en face à face. C'est important de mettre un visage sur un prénom, sur une équipe, c'est très important. On travaille dans l'humain, donc restons humains, connaissons-nous. Mmh. Donc on peut faire des réunions de synthèse, de connaissances, de partage aussi, par le biais de Famille Service.
On en parle parfois des réunions, on en parle un peu moins souvent des cahiers de transmission. C'est un bon outil,
Michel. C'est un outil fondamental. Fondamental parce que c'est un outil... qui fait vraiment le lien entre les différents collègues, les différents professionnels qui vont venir au domicile d'une personne. Donc, si la douche a été donnée, ou un shampoing plus exactement, un shampoing est fait à une femme le lundi, c'est vrai que c'est, sauf exception, c'est absurde de refaire un shampoing le mardi. Voilà. Bon. Par contre, si ça n'est pas écrit dans le cahier de transmission, effectivement, ça peut arriver.
Des
c'est vraiment dommage.
Comme ça.
Voilà. Donc ça, c'est très important. D'autre part, c'est très important aussi de noter un certain nombre d'éléments aussi objectifs que possible. C'est pas à bien manger, c'est à manger un yaourt entier, une pomme entière, une tranche de viande. Bon, voilà. Ça veut dire une information qui va être compréhensible par tous ceux qui vont passer derrière. C'est important pour la famille, quand oui. La personne elle-même ne peut pas s'exprimer, parce que la famille va savoir ce qui s'est passé, pas pour faire du flicage, évidemment, mais pour comprendre pourquoi il peut y avoir tout d'un coup une détérioration de l'état de santé. C'est important pour le médecin qui fait du suivi, parce que si plusieurs jours de suite, les différents auxiliaires disent « mange beaucoup moins que d'habitude, dors beaucoup plus, est très pâle, par exemple », à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut appeler le médecin... il va voir depuis combien de temps il y a un problème. Donc, tous ces éléments sont vraiment des garde-fous par rapport à la situation de la personne aidée.
Jean-Jacques, autour de vous, il y a vos enfants. Vous voyez souvent votre frère aîné aussi, je crois. Quelle place ils trouvent? Et eux, ils vous aident, mais pas de la même façon que Martine, j'imagine. Vous les
non.
voyez pour le plaisir?
Oui, pas que pour le plaisir. C'est aussi, pour moi, une stimulation. Stimulation psychologique, c'est-à-dire,
oui.
Voilà, je ne suis pas seul, j'existe, de retrouver une place dans la société et de dire, c'est la semaine prochaine, je vais à tel endroit, peu importe, et de se dire, j'y serai, je serai dynamique, présent, et je vais leur montrer ce que je peux faire. C'est une aide importante que des gens comme Martine ou les autres peuvent apporter, parce que c'est outre l'aide physique, je parlais des chaussettes, mais c'est aussi une aide morale. C'est une aide, il y a des moments où vraiment je peux avoir le moral à plat, me dire c'est quand même terrible, je suis devenu dépendant, j'ai besoin de quelqu'un pour les actes de la vie courante, voilà, j'ai envie de vivre, ma vie n'est pas finie, donc il faut renaître. Pour moi, c'est un peu une renaissance, un retour à la vie des vivants.
Grâce à vos proches et grâce à Martine. Martine, vous avez des contacts avec la famille de Jean-Jacques, c'est important aussi de savoir qu'ils ne sont pas très loin, que vous pouvez échanger avec eux éventuellement.
Ah oui, c'est très important, dans la mesure où ce n'est pas nous qui prenons les décisions pour M. Bled. M. Bled est tout à fait capable de donner son avis pour prendre des décisions. Sa famille est proche, ses enfants vivent à côté, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a eu des outils Internet aussi mis à disposition chez M. Bled, comme l'agenda, comme ses dépenses, pour que M. Bled puisse suivre lui-même ses dépenses. Il sait qu'il... bon, il est peut-être sous tutelle, mais il a une largesse, une marge pour dépenser son argent, à lui de gérer aussi, voilà, jusqu'à un certain seuil. Donc c'est très important de savoir que la famille est là pour nous donner certaines clés, mais c'est vrai qu'en contrepartie, nous devons aussi leur rendre des informations sur ce que nous faisons de ces outils et comment ça se passe pour M. Bled. Donc ce sont des échanges essentiels. Et au cours des tournages en duo, ça a été des tournages très très riches en vécu et en émotion. Ça a été essentiel pour M. Bled aussi et pour nous.
Vous pourrez donc découvrir et voir Jean-Jacques et Martine dans un des épisodes de la série du programme court En Duo. Rendez-vous sur France 3 pour En Duo du 2 au 27 novembre prochain à 11h50. enduo.fr, H-A-N-D-U-O, pour plus d'informations. Merci à tous les deux d'avoir été ici et d'avoir témoigné. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Merci.
Et dans quelques instants, Michel Guimel-Chambonnet répond, ouvre le courrier et répond à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite.
Vous écoutez La Parole aux aidants.
Christophe Bougnot,
Michel Guimel-Chambonnet.
La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond tous les vendredis à vos questions. Le site internet de Vivre FM, www.vivrefm.com, la page Facebook de Vivre FM vous permettent tous deux de poser ces questions. On y va, Michel ?
Avec plaisir.
Question de Patrick qui nous écrit de Joinville. Ma femme est atteinte de la sclérose en plaques depuis 8 ans et elle doit arrêter de travailler pendant que moi je continue. Elle me dit qu'elle est inquiète de rester toute seule à la maison en mauvaise santé toute la journée. Que dois-je faire pour aménager cette nouvelle façon de fonctionner entre nous ?
Alors, déjà, pour la rassurer, peut-être lui proposer qu'elle ait un système d'alerte au cas où elle aurait un malaise, c'est un médaillon qu'on porte autour du cou, ou bien un bracelet, ça dépend des entreprises. Et si vraiment elle avait un malaise et qu'elle tombe ou qu'elle se sente mal, le simple choc de ce médaillon déclenche le système, c'est-à-dire que la personne la plus proche géographiquement d'elle sera alertée, à condition que la personne ait donné son numéro de téléphone, elle sera alertée pour qu'on vienne tout de suite la voir. Si ça ne répond pas, ce sont carrément les pompiers qui sont alertés. Bien sûr, son mari aussi pourra être alerté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça, c'est quelque chose de technique, technologique.
Pour l'urgence, c'est bien pratique.
Pour l'urgence, et c'est très pratique. Alors, la deuxième chose qui est possible, c'est de demander à ce qu'une personne de compagnie, une dame de compagnie, comme on disait avant, mais ça peut aussi être une jeune fille, un jeune homme, enfin peu importe, vienne passer un moment avec elle et discute avec elle, prenne un café avec elle, enfin, un moment où elle ne serait pas seule et où elle aurait la possibilité d'une interaction agréable avec quelqu'un. Il y a aussi, s'ils sont dans la région parisienne, la possibilité de ce qu'on appelle le portage, c'est-à-dire les bibliothèques municipales mettent à disposition un certain nombre de jeunes qui font leur service civique et qui viennent apporter des livres au domicile d'une personne qui ne peut pas se déplacer, qui discutent du bouquin avec la personne, qui viennent rechercher les livres et en apporter d'autres. Les rendez-vous se prennent par téléphone, donc, ou par Internet. Enfin, justement, il y a une utilisation de tous les moyens de communication modernes d'aujourd'hui. Et c'est très agréable parce que ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui sont pleins d'allants, qui sont toujours sympathiques. Vous vous souvenez peut-être que nous en avions reçu ici une jeune femme qui était adorable. Et c'est vraiment une façon aussi de faire entrer de la vie dans le foyer pendant que le monsieur n'est pas là.
Un décalage entre le mari et la femme remplir sa journée et du coup de plus s'entendre ou alors de se...
Elle aura aussi des choses à raconter sur ce qu'elle a fait et sur qui est venu et sur qui elle a vu. Bon, elle peut aussi demander à ce que à une association de maintien à domicile ou à une entreprise, à ce que un ou une auxiliaire de vie vienne lui faire une visite et l'emmène promener, par exemple, même si elle est en fauteuil roulant, si elle peut sortir de l'immeuble.
Un auxiliaire de vie qui peut être demandé dans le cadre du projet de la MDPH
et
financé
tout à fait
au passage.
Et ça aussi, ça peut être très intéressant parce que ce sera quelqu'un qui va venir, avec qui elle ira elle-même faire quelques petites courses, avec qui elle va sortir, avec qui elle va bavarder. S'il se met à pleuvoir des cordes, elles ne vont pas sortir, évidemment, mais elles pourront au moins discuter, prendre un café, enfin, prendre du temps pour elles. Et toutes ces choses-là, alors je ne dis pas qu'il faut remplir la semaine avec tout ça. Il faut aussi que cette femme apprenne à vivre à la maison seule. Mais si elle est tranquillisée par le système d'alarme, peut-être qu'elle pourra supporter mieux d'être seule une ou deux après-midi dans la semaine et puis avoir des activités le reste des jours.
Vos questions d'aidants sur vivrefm.com, sur la page Facebook en envoyant un message. Valérie nous écrit d'Alfortville. Mon frère Pascal a des troubles psychiques importants et son psychiatre de ville, d'une part, et son psychiatre d'hôpital, d'autre part, sont en désaccord sur la possibilité de diminuer les médicaments, c'est son souhait. Pascal en profite du coup pour tourner le dos au médecin complètement et les traiter de charlatans. Comment puis-je intervenir dans cette situation ?
Écoutez, je suis très mal à l'aise de cette question parce que je ne suis pas loin de penser que le monsieur a raison de les traiter de charlatans, alors que ça n'est pas ma façon de voir habituelle. Je trouve absolument inadmissible que deux psychiatres qui traitent le même patient soient à ce point incapables de se mettre d'accord sur un minimum de façon à ce que justement le patient n'échappe pas aux soins.
Une patient qui est même pris comme intermédiaire, apparemment.
Tout à
On a
fait.
L'impression qu'ils ne se parlent pas directement,
absolument.
Si ça se trouve, c'est vrai.
Mais bien sûr. Mais ça arrive souvent. Et ça, c'est dramatique. Ce sont vraiment des médecins qui ne savent pas faire leur travail de médecin. Je ne dis pas le travail technique. Ils sont certainement compétents, très bons, les médicaments, tout ce que vous voulez.
Ils ont des DU, des États-Unis et compagnie.
En tant qu'humain, c'est zéro pointé. Voilà. Et alors, effectivement, mon idée serait de dire... continuer de n'en voir qu'un seul, celui qui est le plus facile d'accès, qui est le plus ouvert, celui qui peut éventuellement accepter, mais en faisant très attention, et à ce moment-là, le patient s'engage à vraiment respecter ce qui sera mis en place, à diminuer légèrement les médicaments, de façon à ce que la vie courante soit de meilleure qualité pour le patient, bien sûr.
Question des aidants familiaux. Enora nous écrit de la ville de Menton. Ma petite fille est hémiplégique et elle me dit que des petits camarades de CE2 se moquent d'elle souvent. Le maître d'école dit qu'il faut la laisser s'endurcir. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ses propos. Qu'en pensez-vous ?
Mais je pense que c'est la maman qui a raison et que effectivement le maître n'a rien compris. Oui, les grandes épreuves nous fortifient à condition d'en sortir. Hein ? C'est à la fois vrai et complètement ridicule de penser et de dire ça. Non, ce qu'il faut que cette famille fasse, c'est aller voir le directeur de l'école, ensuite parler avec le maître, demander qu'il y ait une réunion avec les enfants, avec éventuellement les autres parents des enfants de la classe, et expliquer la situation de la petite fille, et expliquer pourquoi... autant de méchancetés sont d'abord inadmissibles moralement et d'autre part ne peuvent que la démoraliser et ne pas l'aider à progresser. Enfin, les camarades, ça ne veut pas dire qui vous entasse, au contraire, ça veut dire qui vous soutient. Donc, les camarades sont là pour soutenir cet enfant. Elle a déjà assez de difficultés par elle-même. C'est pas pour que le groupe se ligue contre elle.
Elle a parfaitement sa place à l'école, cette petite fille, parmi les valises, si c'est ce qui
Tout
lui convient
fait.
Le mieux. Donc il ne faut
bien
pas
sûr.
Accepter cette situation.
Non, il faut bien sûr qu'il faut
pas
accepter.
Et quand on explique, ça peut changer les choses.
Ça change les choses parce que, en fait, on rejette quand on ne connaît pas et quand on a peur. Et si on explique, on a moins peur, on connaît, et du coup, on ne rejette plus.
La question d'Alfred qui nous écrit du 13e à Paris. Mon père se voit exclu de l'EHPAD, maison de retraite où il se trouve, parce qu'il ne respecte pas les horaires de retour du soir, et puis parfois il fugue. Mais c'est justement pour ça que j'ai besoin qu'il ne vive pas seul. Comment réagir ? Faut-il lui trouver un endroit encore plus fermé ?
Peut-être. Et peut-être aussi qu'il faudrait demander à l'EHPAD d'avoir une politique... de surveillance, je n'aime pas beaucoup le mot, mais en tout cas d'encadrement un peu plus fourni par rapport à ce monsieur, qui n'est probablement pas le seul à sortir et à ne pas rentrer à l'heure. Bon, c'est sûr que pour une vie collective, il y a un minimum de contraintes à respecter, mais s'il ne peut pas les respecter, c'est peut-être qu'il ne sait plus lire l'heure, tout bêtement. C'est peut-être qu'il n'a pas de montre. C'est peut-être que, en effet, la vie qu'il a dans cet établissement ne lui paraît pas suffisamment agréable pour qu'il ait envie d'y revenir. Enfin, il y a beaucoup de choses à examiner avant de le mettre à la porte. Mmh. Donc, je crois
notre
que
auditeur
ce serait bien...
Alfred a raison, je trouve, de dire que c'est un problème que devraient connaître les
EHPAD.
On se repose sur un établissement pour ce genre de problème.
Et c'est la question, enfin, c'est le point sur lequel je crois qu'il faut qu'il aille discuter, non pas pour imposer que son père reste là, mais en tout cas, comment comprendre les retours trop tardifs et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que justement il rentre plus tôt, ou peut-être qu'il ne puisse maintenant sortir qu'accompagné s'il n'est pas à même de rentrer par lui-même.
La question des aidants sur vivrefm.com, sur la page Facebook. Stéphanie nous écrit de la ville de Brétigny-sur-Orge. « J'aimerais partir en Tunisie », nous dit Stéphanie, « pour les 40 ans d'une copine. Mon mari dit qu'il ne se sent pas capable de s'occuper seul de notre fils atteint de troubles autistiques et d'un polyhandicap. Que puis-je faire? J'ai grand besoin de m'amuser. »
Alors, il faudrait savoir si cet enfant est pris en charge dans la journée ou s'il est complètement seul à la maison avec un de ses parents. Ça, c'est la première chose, parce qu'il est toujours possible de demander à ce qu'il soit hébergé pendant quelques jours, un accueil temporaire qui permettrait aux parents d'être libérés. Ou alors, si ça n'est pas possible... On peut aussi demander à un membre de la famille ou à un ami proche de venir, non pas pour faire des choses, mais pour être auprès du papa qui se sent un peu impuissant, il faut dire. Et donc, à ce moment-là, peut-être que ça le désangoisserait et il pourrait tout à fait s'occuper de l'enfant. Et il est fort probable que le père envisage le pire et que le pire n'arrivera pas. C'est sûr que c'est difficile de s'occuper.
Il faut accepter de déléguer, même lorsqu'on considère que c'est délicat, qu'on est les mieux placés, qu'un des deux parents, par exemple, est le mieux placé pour aider.
Oui, bien sûr, mais là, je crois que le père a peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être qu'une présence autre que celle de son épouse le rassurerait suffisamment et il pourrait tout à fait affronter la situation.
Et Stéphanie part en Tunisie.
Et elle part en vacances, bien sûr.
Toutes vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook, vos difficultés, vos grands bonheurs. 01 56 88 40 20, le numéro de Vivre FM qui vous permet de témoigner chaque vendredi dans La Parole aux aidants. Merci Michel.
Au revoir Christophe.
Vivre FM, podcast.